L'homme et les grands singes sous la loupe de la génétique aujourd'hui à la une de la science. On retient que 98% du génome humain est partagé avec celui du chimpanzé. Une nouvelle étude américaine entre aujourd'hui dans les détails de ces fameux 2% coordonnés par l'université de Washington. 40 scientifiques publient une actualisation ultra précise des génomes de plusieurs grands singes. Et Axel, on en discute avec notre invité.
Oui Mathieu, nous sommes avec le biologiste Hugues Roost-Crolius. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS, responsable de l'équipe dynamique et organisation du génome à l'École normale supérieure. Donc, ce sont les nouveaux génomes de référence pour les chimpanzés et les gorilles qui sont publiés par ces chercheurs de Washington. Des séquençages de très grande qualité. Qu'est-ce qui a permis ce pas en avant dans le détail ?
Oui, donc il existait depuis plusieurs années des versions un peu brouillonnes de ces génomes de primates non humains. Et un des résultats principaux de ce travail, c'est une sorte de prouesse technologique, c'est d'avoir utilisé des technologies de séquençage de troisième génération pour pouvoir obtenir des génomes qu'on a assemblé, qu'on a reconstitué de manière complètement indépendante du génome humain. Alors que les brouillons dont je parlais à l'instant ont été un petit peu calqués sur le génome humain. Et donc, il était très difficile de faire des études indépendantes entre le génome humain et les génomes de ces primates. Aujourd'hui, c'est possible. Et donc, les chercheurs ont documenté les variations très, très fines qu'on peut observer.
Pour donner une image, ça veut dire qu'on avait des génomes flous avant et que maintenant, on a rajouté des pixels, alors ?
C'est un petit peu ça. On peut dire ça.
Et quand vous dites qu'on s'est servi du génome humain comme guide pour construire les génomes, en tout cas dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça veut dire que les petits fragments qu'on obtient par séquençage avec les méthodes précédentes de deuxième génération sont très petits et donc très difficiles à rassembler pour reconstituer le génome entier. Alors, un peu par facilité, ce que faisaient les chercheurs avant, c'était simplement d'aligner les séquences sur le génome humain, en espérant que dans le génome du chimpanzé, par exemple, elles seraient dans le même ordre. Et c'est vrai dans la grande majorité des cas, donc on ne se trompait pas beaucoup. Mais néanmoins, cet assemblage dépendant du génome humain limitait beaucoup les études qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, on est vraiment sur un assemblage totalement indépendant, grâce à ces technologies qui font des morceaux beaucoup plus grands, et donc plus faciles à assembler indépendamment.
Bon, il n'y a pas eu de surprise, on partage toujours 98% de notre génome avec le chimpanzé, il n'y a pas eu de nouveaux résultats là-dessus.
Oui. On est toujours sur ces 2%. Maintenant, on peut juste
affiner
hein, et mesurer
énormément les choses. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui nous permet de voir ces pixels en plus, si on suit la métaphore, dans le génome du chimpanzé, si on compare à l'humain ?
Donc, ce qu'on peut documenter, ce sont deux types de variations. Ce sont des variations de base, de lettres. Comme on sait, le génome est constitué de 4 lettres ATCG dans un ordre qui semble aléatoire, en fait, qui ne l'est pas. Et ces petites différences de présence et d'absence de lettres explique un grand nombre de différences et on sait aujourd'hui qu'il y en a environ 1,3%. Ils les ont documentés avec grande précision. Le deuxième type de différence, ce sont ce qu'on appelle des insertions ou des délétions d'ADN qui jalongent le génome et qui maintenant représentent une fraction qui est de l'ordre de, alors pour donner un chiffre, 40 millions de lettres de ces bases, ce qui représente l'équivalent d'un petit chromosome. Donc mis bout à bout, c'est quand même un gros morceau d'ADN qui est en plus ou en moins dans nos deux génomes. Donc ces 2%, finalement, quand on les ramène à ce qu'on pourrait imaginer plus concrètement comme un chromosome, on se dit, ça doit contenir pas mal d'informations.
Et donc le but du travail, quand même, en finalité, c'est d'essayer de comprendre comment ces différences amènent à un chimpanzé ou à un homme. Et la deuxième partie du travail de ces chercheurs est assez étrange. Ils se sont servis de ces nouveaux génomes pour faire pousser des organoïdes, de cerveau humain et chimpanzé. Quel est le but de cette partie de l'expérience ? Qu'est-ce qu'on a quand on regarde un organoïde et qu'est-ce que c'est déjà ?
Alors, c'est vrai que faire de la génomique en séquençant des génomes et en documentant des petites différences, c'est pas vraiment passionnant. Et l'intérêt, c'est vraiment de voir quelles sont les conséquences biologiques, fonctionnelles de ces différences sur la morphologie et le développement et la physiologie des organismes. Alors, ce qui évidemment attire tout de suite l'attention quand on compare des chimpanzés et des humains, c'est pas forcément la pilosité ou la capacité à monter dans les arbres, c'est la taille du cerveau, c'est les capacités cognitives. Le cerveau humain est 3 fois plus gros que le cerveau d'un chimpanzé, beaucoup plus de connexions, beaucoup plus de neurones, et donc évidemment on a envie de mettre le doigt un peu sur les différences génétiques qui expliquent ces différences de fonctionnement cognitif. Alors c'est ce qu'ont fait les chercheurs. Alors évidemment, faire des expériences sur des vrais cerveaux humains, des vrais cerveaux de chimpanzés pose des gros problèmes éthiques, et donc un moyen de contourner ce problème, c'est de travailler avec des cerveaux dans des boîtes de pétri. Aujourd'hui, on est capable de faire pousser des cellules à partir de cellules qu'on appelle indifférenciées, de les programmés avec un petit cocktail de gènes bien étudiés pour en faire pousser en trois dimensions ce qu'on appelle des organoïdes, des petits bouts de cerveau dans des boîtes de pétri. Alors on peut faire toutes les expériences qu'on veut. Et donc ils ont été mesurés l'expression, l'activité des gènes humains dans l'organoïde de cerveau humain et de chimpanzé dans l'organoïde de cerveau de chimpanzé.
Et on arrive vraiment à avoir des cerveaux miniatures?
Oui, des petits cerveaux miniatures, oui. Alors, ce sont des cerveaux dont ce sont des amas de neurones qui reconstituent effectivement la structure d'un génome, d'un cerveau
humain ou primate non humain.
Voilà, ouais. C'est ça. Alors, évidemment, on ne peut pas lui attribuer on n'a pas pu mesurer, en dehors d'une activité évidemment électrique, on peut voir l'activité des synapses. Maintenant, ce qu'ils font, ça, on ne le sait pas.
Ouais. Est-ce qu'ils arrivent à une réponse? Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on sait dans le détail pourquoi l'homme a un plus gros cerveau que le chimpanzé?
Non. Malheureusement, c'est vraiment loin encore de pouvoir... On est encore loin de pouvoir le conclure. Ce qu'ils ont remarqué comme différence, c'est un peu contre-intuitif. On se dit qu'avec un cerveau plus gros et plus de synapses et des connexions plus denses, forcément il y a quelque chose en plus dans le génome humain qui explique tout ça. Et en fait, en regardant les différences, ce qu'ils observent, c'est que pour environ 500 gènes qui sont actifs dans le génome, dans le cerveau de l'organoïde du cerveau humain et dans l'organoïde du cerveau de chimpanzé, eh bien ces 500 gènes sont moins actifs dans le cerveau humain. Donc
Ah oui, c'est très contre-intuitif alors.
C'est très contre-intuitif et les chercheurs disent que cela est cohérent avec une théorie qui a été proposée à la fin des années 90, qui avait été appelée less is more ou le moins est le mieux. C'est-à-dire qu'en fait, l'évolution, au lieu de procéder par addition de petites séquences qui augmentent les capacités, les fonctions des organismes, et bien parfois procède plutôt par une espèce d'élagage. On enlève des morceaux de séquences. Et
ce qui aurait été le cas dans le cerveau humain par rapport à celui des chimpanzés, par exemple. Il y aurait eu un nettoyage de gènes.
Pas de gènes, justement. C'est ça qui est intéressant. C'est que les gènes sont à peu près au même nombre. Par contre, ils sont moins actifs, pour ces 500-là, dans les cellules de cerveau.
Incroyable.
On a beaucoup parlé du chimpanzé. On l'a dit, le génome du gorille aussi a été séquencé. Est-ce qu'on apprend des choses intéressantes quand on regarde du côté du gorille, pour terminer?
Alors, le gorille et l'orang-outan, en l'occurrence, dans cette étude, ont servi plutôt de ce qu'on appelle de contrôle externe pour mesurer les différences qui se sont accumulées le long des branches de la lignée chimpanzé et de la lignée humaine. Eh bien, il faut une lignée qui soit externe à ces deux-là. Et le gorille et l'orang-outan ont surtout servi à ça. Voilà. Donc,
merci beaucoup en tout cas à vous, plaisir. Hugues Roust-Crolius, pour ces précisions autour de cette étude et de cette étude américaine en l'occurrence. Merci beaucoup à vous et Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, quand notre environnement nous rend bêtes, connu sous le nom d'effet de Flynn renversé, le QI au sein des pays développés ne cesse de décroître depuis 1975. De nombreuses études affirment que l'intelligence baisse d'année en année, mais les raisons restent encore mal connues. Une large étude norvégienne suspecte aujourd'hui l'environnement au sens très large comme étant la cause de ce déficit, la baisse du QI. Ça donc dû plus au système éducatif, à l'omniprésence des écrans ou aux perturbateurs endocriniens, plus qu'à la génétique. À quoi ressemble Dieu? Même si le simple fait de le représenter suscite la controverse chez certains croyants, des psychologues de Caroline du Nord se sont amusés à reconstituer le visage du Dieu chrétien en se basant sur le témoignage de centaines de catholiques et les résultats sont étonnants. Contrairement aux représentations de la culture populaire, le Dieu chrétien chez ces personnes serait jeune, plus féminin et moins caucasien. Vous pouvez retrouver ce portrait robot sur la page Facebook de l'émission. Et puis lorsque les parents critiquent leurs enfants, ces derniers sont moins attentifs à l'expression des émotions sur le visage des autres. Des chercheurs ont tenté de déterminer l'impact que pouvait avoir le comportement des parents sur le développement émotionnel de l'enfant. S'il est sujet à de nombreuses critiques, l'enfant se protège en évitant d'observer le visage expressif des adultes. C'est ce que montre l'étude en tous les cas. Un comportement inquiétant car il pourrait entraîner chez eux divers troubles comme la dépression et l'anxiété. Indifférent, l'enfant est également coupé des expressions faciales positives et rassurantes des personnes qui l'entourent.